RCF. Nos frères aînés, Noémie Marijon.
50 ans après Vatican II et Nostra Aetate, qui marque une réconciliation ou un début de réconciliation entre les Juifs et les chrétiens, qu'en est-il du dialogue entre ces deux peuples ? Quelles sont les modalités de cette conversation entre le frère aîné et le frère cadet ? Concrètement, comment mettre ce dialogue en place ? C'est ces questions que nous allons aborder aujourd'hui avec Sylvaine Lacoux, titulaire d'un doctorat en théologie qui enseigne au Collège des Bernardins, où elle est responsable du Centre chrétien d'études juives. Elle a également écrit 2 livres sur le Shabbat aux éditions des Béatitudes. Sylvaine Lacoux, bonjour.
Bonjour.
Pour vous, qu'est-ce qui s'est passé depuis Nostra Aetate ? Et peut-être même, en priorité, qu'est-ce que c'est que Nostra Aetate ?
Alors, je vais dire ce qui s'est passé avant, parce qu'il ne s'est rien passé. C'est-à-dire qu'au fond, depuis la naissance du christianisme et le développement du christianisme, le dialogue avec le peuple juif a été comme interrompu, inexistant. On peut même dire que dans l'Église, il y a eu un certain déni. On a développé ce qu'on a appelé la théologie de la substitution. Au fond, Dieu n'avait plus rien à dire à Israël et Israël n'avait plus rien à dire sur Dieu. Que les chrétiens ont remplacé les juifs parce qu'ils sont porteurs maintenant de la parole de Dieu, du fait même, avec cette fameuse expression terrible, que Israël est un peuple déicide qui a tué Dieu. Donc Dieu n'a plus rien à lui dire et c'est le christianisme qui remplace le judaïsme. Donc on va avoir en effet plein d'expressions qui expriment cette réalité. Israël n'a plus rien à dire, c'est l'Église qui est vraiment le nouvel Israël même. C'est ça un peu le climat qui est avant Nostra Aetate, mais je dirais c'est encore pire parce que pendant des siècles, en effet, rien ne s'est passé entre juifs et chrétiens. Si, il y a des choses terribles qui se sont passées. Ce sont les ghettos, ce sont les persécutions, les croisades, etc. Mais aucun dialogue, aucune question de la part même des plus grands théologiens, la place d'Israël dans l'histoire du salut, la place d'Israël dans l'histoire du christianisme. Il y a eu quelques figures qui se sont détachées, je pense à quelqu'un comme Saint Bernard. Donc il y avait pas de dialogue. Et puis est arrivé la Shoah. Et c'est vrai qu'au lendemain de la Shoah, il y a vraiment une question énorme qui surgit. Pourquoi ? Et comment faire pour qu'il n'y ait plus jamais cela ? Et au fond, l'Église s'est interrogée, a commencé à s'interroger sur son attitude face au peuple juif. Et donc, au lendemain de la guerre, il y a des groupes qui se sont formés de réflexion. C'est là qu'est née l'amitié judéo-chrétienne en 1948, où des chrétiens et des juifs commencent à parler, à échanger. Et c'est dans ce contexte, en 1965, au cours du Concile Vatican II, qu'une déclaration va être écrite portant sur les relations entre l'Église et le peuple juif.
Alors peut-être un peu plus largement sur Nostra Aetate.
Alors Nostra Aetate, ça touche, je dirais, d'autres religions, mais le chapitre 4, je dirais, était celui qui a eu le plus de prospérité, parce que les autres, on ne peut pas dire qu'on les a beaucoup travaillés, c'est ce fameux chapitre 4 de Nostra Aetate, qui, au fond, commence par une phrase qui est assez intéressante, c'est « scrutant le mystère de l'Église, le Saint-Concile rappelle le lien qui relie spirituellement le peuple du Nouveau Testament à la lignée d'Abraham. » C'est-à-dire, on découvre subitement que...
Après deux siècles d'ignorance.
Des siècles et des siècles d'ignorance, eh bien que l'Église n'est pas seule, elle a des racines. Et ces racines plongent dans l'Ancien Testament et dans la tradition juive. Et ça va être un peu, je dirais, une étape, une première étape, un petit texte, même qui n'a pas une grande place dans les textes de conciliaires, c'est une simple déclaration, mais qui va porter des fruits immenses. Parce que il va contraindre les églises à se poser la question de ce rapport avec le judaïsme, et d'autres textes vont être écrits, des textes d'orientation, comment dans la liturgie ne pas parler d'une façon méprisante des juifs, comment dans la catéchèse bien parler de l'histoire du salut et de l'histoire d'Israël, etc. Et donc toute une série de textes vont surgir pour bien ajuster la relation entre juifs et chrétiens.
Alors, vous avez dit contraindre. Est-ce que Nostra Aetate, c'est un texte qui vient de Rome et qui va se diffuser? Ou est-ce qu'au contraire, il est le fruit de choses qui se passent dans les divers diocèses à la base? Ou est-ce que plutôt c'est une volonté?
C'est un texte qui a un poids, puisque c'est un texte qui se trouve dans les textes du Concile Vatican II. C'est un texte qui va se diffuser, mais c'est aussi des expériences de terrain. On va voir dans beaucoup d'endroits, je dirais, un désir même des chrétiens de redécouvrir, par exemple, l'Ancien Testament, de lire l'Ancien Testament. Et en lisant l'Ancien Testament, de redécouvrir, ou de découvrir simplement, les racines juives de la foi chrétienne. Je dirais, il y a le terrain aussi qui va suivre sans trop même connaître peut-être la déclaration, mais c'est vrai que Rome va publier, ou les diocèses vont publier des textes qui, d'une certaine façon, aident les chrétiens à poser un autre regard sur le judaïsme.
À l'inverse, est-ce que à ce moment-là, les communautés juives, elles, changent de regard sur les chrétiens? Alors, ou est-ce que...
Pas tout de suite. Je dirais qu'il faut attendre 50 ans. C'est au bout de 50 ans, et ça, moi, je l'ai entendu dans la bouche de rabbin me disant... On s'est dit, au bout de 50 ans, quand on a vu tout ce que vous avez fait, eh bien, ils ont changé de regard. Donc, on peut leur faire confiance.
D'accord.
Et c'est là que, du côté juif, il va y avoir aussi des grandes déclarations. À partir de 2000, ça commence, mais c'est surtout en 2015 qu'on va avoir des déclarations, soit de rabbins européens, de rabbins américains, israéliens, de rabbins français, où... Ils constatent, ils disent, on peut travailler désormais avec nos frères chrétiens. Ils ont posé un nouveau regard sur nous et ensemble, peut-être, on peut avancer pour, je dirais, changer le monde, porter les valeurs de la biblique dans ce monde. Et là, c'est vrai qu'il y a, c'est amorcé tout un mouvement du côté juif.
Les juifs et les chrétiens ensemble ont un message pour le monde entier, c'est ça?
Oui, parce que je pense que nous portons les mêmes valeurs éthiques. Elles sont résumées dans les 10 commandements. Et je crois que c'est le désir maintenant, dans tous les milieux de dialogue judéo-chrétien, c'est de travailler ensemble pour, je dirais, mettre en avant ces valeurs éthiques. Là, je vous lis un simple passage d'un texte qui a été écrit par des rabbins américains. Ils disent « Comme l'ont fait Maïmoïd et Yehuda Alevi, c'est des grands personnages du judaïsme, nous reconnaissons que le christianisme n'est ni un accident, ni une erreur, mais le fruit d'une volonté divine et un don fait aux nations. En séparant le judaïsme et le christianisme, Dieu a voulu une séparation entre des partenaires présentant des divergences théologiques importantes, mais non entre des ennemis. » C'est-à-dire, nous sommes des partenaires. Je dirais, nous ne croyons pas tout de la même façon. Nous avons des divergences et il faut accepter ces divergences, mais nous pouvons aussi avancer ensemble parce qu'il y a des éléments, et en particulièrement tout ce qui concerne l'éthique, la morale, qui nous sont communs. Donc désormais, nous pouvons ensemble travailler pour le bien commun, pour le bien de l'humanité.
Et c'est quoi le but de ce dialogue judéo-chrétien? À quoi ça sert de parler avec les juifs?
Alors d'abord, ça sert à quelque chose. Le dialogue judéo-chrétien est un paradigme, c'est-à-dire un exemple. Quand on sait qu'on a été divisé pendant plus de 20 siècles et qu'on arrive maintenant à travailler ensemble, ça montre qu'entre des soi-disant frères ennemis, quelque chose est toujours possible. Et c'est un modèle, je dirais, pour le dialogue interreligieux. J'aime beaucoup un des derniers textes de Rome sur justement le dialogue avec nos amis juifs, ne parle plus de dialogue interreligieux avec les juifs, mais intrafamilial. Parce que, en effet, nous sommes de la même race, de la même famille. Mais ce qui se passe entre juifs et chrétiens peut être un modèle de ce qui peut se passer, par exemple, entre chrétiens et musulmans, entre juifs et musulmans. On a dépassé les difficultés, on a dépassé les différences, on les a reconnues. Elles ne sont pas rayées, ces différences, elles sont toujours là, mais nous pouvons avancer ensemble.
Oui, ce dialogue est un dialogue et pas une volonté de conversion ni d'une part ni de l'autre.
Absolument pas, absolument pas. Le dernier texte de Rome, qui est un texte aussi de 2015, dit bien qu'il ne peut pas y avoir un projet de conversion du côté chrétien vis-à-vis des juifs. Ce sont des frères qui parlent à Dieu d'une certaine façon, qui ont une vocation particulière, qui ont beaucoup à nous apprendre, mais au fond qui sont sur la même route que nous. cette route, un jour, convergera et nous serons en plénitude de la lumière de Dieu ensemble.
À la découverte des origines juives du christianisme, nos frères aînés sur RCF.
Concrètement, comment on vit ce dialogue judéo-chrétien? Est-ce que vous avez des conseils à donner à nos auditeurs?
Alors, il y a beaucoup de possibilités. C'est sûr que c'est pas facile d'arriver tout seul dans une synagogue. C'est possible, mais c'est pas si facile. Mais par exemple, vous avez dans pas mal de grandes villes de France des relais de l'amitié judéo-chrétienne, donc des groupes qui se réunissent de temps à autre entre juifs et chrétiens et qui échangent. Et puis vous avez des lieux de formation. Et je crois que Nostra Aetate dit on va avancer grâce à la connaissance et à l'estime. Et je crois que c'est important pour un chrétien de découvrir ce qu'est le judaïsme, parce qu'il y a beaucoup d'a priori qui circulent. Il y a aussi, à Paris, on organise aussi des dimanches de découverte du judaïsme. Il y a des sites aussi également qui donnent ces possibilités. Donc, je pense que beaucoup d'entre nous, chrétiens, véhiculent des idées complètement fausses sur le judaïsme. Et je crois qu'il faut s'en débarrasser et vraiment entrer dans une véritable connaissance. Il faut savoir quand même que la France est très marquée en ce moment, elle a toujours été marquée, mais en ce moment, il y a une poussée d'antisémitisme. Et c'est pour ça que le 1er février, les évêques de France ont signé une déclaration avec le grand rabbin de France, qui est Raïm Korsia, pour dire qu'ensemble, nous luttons contre l'antisémitisme et l'antijudaïsme. Il est là, à notre porte. Et donc, il faut se former pour pouvoir, je dirais, déceler tous ces germes qu'il peut y avoir d'antisémitisme ou d'antijudaïsme dans nos propos. C'est pour ça qu'il est important de se former.
Très bien, merci beaucoup Madame Sylvaine Lacoux. J'en profite pour remercier aussi le Collège des Bernardins et particulièrement Nathalie Moisan qui nous a accueillis pour ces enregistrements. La semaine prochaine, dans Nos Frères Aînés sur RCF, nous parlerons d'un des grands acteurs du dialogue entre les Juifs et les chrétiens en France et à l'international. Il s'agit du cardinal Lustiger. Bonne journée à tous et toutes et à bientôt.